Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, et sur radioenplus.fr. Vous écoutez, ici on parlait de la Provence, une série d'émissions, vous l'avez compris, sur la Provence. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime cette émission, avec un intervenant, un invité permanent, un provençal, monsieur Philippe Rey, doctoresse littérature en provençal, majorale de Philébrège, qui est aussi académicien, membre de l'Académie de Saint-Gilles-la-Camargue, qui se trouve en Provence et avec laquelle nous avons une émission spécifique. Bonjour à toi, docteur Philippe Reig.
Bonjour Jacques.
Bonjour à toi Philippe et merci d'être avec nous pour partager ton amour pour la terre provençale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation? Je donne toujours...
Non, l'amour, on peut rajouter inconditionnel après
inconditionnel.
Amour.
Inconditionnel. Nous allons évoquer aujourd'hui, l'histoire de la Provence. Ah voilà, alors voici ma première question. Quand commence en fait l'histoire de la Provence?
Alors, c'est un problème d'axe, d'approche, parce que tout dépend si on parle des premières populations qui sont venues, si on parle du nom de Provence. C'est un peu complexe de dire, mais comme toutes les régions de France, eh bien, on peut parler de la présence sur le sol de population pyrénéenne en tout cas, et on peut partir même du paléolithique,
oui.
Carrément quoi.
Oui, puisqu'il y a des, je veux dire, il y a la population.
Il y a des traces de vie avec la maîtrise du feu, etc.
Voilà, Kessargues, qui est en bronze, on a trouvé, préhistoriques et puis très très antiques, puisqu'on a retrouvé à Marseille les Celtes qui avaient une culture de la tête coupée. Alors bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que les Celtes qui étaient descendus, on a retrouvé à Marseille des piliers avec des crânes inséré dedans, et la tête, la culture à Nîmes, on a retrouvé une pierre notamment dans les arènes de Nîmes où il y avait des représentations de têtes, parce que les Celtes, enfin c'est pas tellement sur la culture de la tête coupée des Celtes, c'est pour montrer qu'il y avait déjà une population en Provence alors qu'on l'appelait pas la Provence.
Voilà.
Donc depuis la préhistoire, et est-ce qu'il y a des particularités de la préhistoire en Provence?
Alors la particularité de la préhistoire, c'est qu'on pourrait dater du dernier tiers du paléolithique supérieur, par exemple à moins 1 million d'années avant le temps présent.
Le paléolithique, c'est la dernière période de la pierre, de l'utilisation de la pierre.
Moins 3 millions 300 000 ans à moins 1 million ou un peu moins. Voilà. Donc c'est une très longue période.
La première, excusez-moi.
Oui, avec le paléolithique archaïque qu'on appelait, le paléolithique inférieur, le cœur du paléolithique, et puis le paléolithique supérieur, qui s'est terminé en moins 12 000 à peu près. Hein, moins 12 000. Donc c'est une période de presque 3 millions d'années. C'est énorme, mais à moins 1 million d'années par rapport au temps présent, effectivement, là on trouve des traces, on a trouvé des grottes en Provence qui sont identifiées, et avec des traces de vie, on pense qu'il y a des peuples et civilisations successives qui se sont succédés, qui faisaient partie de la culture lithique. Donc de la pierre, effectivement, dans ces moments-là. C'est la même chose environ en 800 000 avant le temps présent, à moins 800 000 ans, avec des traces qui montrent la domestication du feu. Bon, il y a des traces, c'est pour ça que là, ce sont des certitudes. Et le paléolithique supérieur, qui s'est déroulé de moins 45 000 à moins 12 000, donc on voit des artistes arriver avec des gravures, des sculptures, on voit. Et puis on avait affaire à un peuple de cueilleurs-chasseurs, qui est devenu après, au néolithique, qui sont devenus des éleveurs-cultivateurs.
Oui.
Il y a cette transition.
On a quand même en Provence, parce que bon, Marseille, c'est la Provence, la grotte, c'est Cosne, je l'ai plus au bout de voile, Cosne à Marseille, il faut absolument visiter pour la reconstitution des peintures rupestres. Et la grotte Chauvet, qui est...
Chauvet, moins de 35 000 ans quand même.
Voilà, c'est pas très loin de la Provence, quoi. Donc tous ces peuples étaient en relation.
Tout à fait.
Il y avait une civilisation de...
Lascaux, moins 15 000, mais il a été découvert... Il n'y a pas très très longtemps, du côté dans le Tarn, une grotte qui est estampillée à moins 196 000 ans. Alors elle n'est pas ouverte au public, elle est encore en cours de recherche, mais donc ça prouve quand même. Et sur ces grottes, bien effectivement, on voit des animaux, on voit des traces de l'humain, quoi.
Et alors, après cette préhistoire qu'on a survolée, bien évidemment, peux-tu nous parler de la Provence dans l'Antiquité, mais dans l'Antiquité avant les Romains?
Alors,
jusqu'à l'arrivée des Romains, quoi.
Parler de la Provence aux époques antéhistoriques, c'est un petit peu un abus de langage. Mais néanmoins, on peut essayer d'évoquer les terres de la Provence actuelle, sans plus. Dans l'Antiquité, Rome a laissé de très nombreuses traces latines dans notre langue mère. Et je veux parler du provençal, bien sûr, et plus généralement de la langue d'oc. Pour les Grecs, on peut évoquer le profil de nos belles arlésiennes.
Oui.
Notamment la deuxième reine d'Arles,
oui.
Où Léo Lelay avait signalé son profil grec, etc. Donc, c'était connu. Et puis, bon, le sang qui coule dans nos veines, c'est celui des Celto-Gaulois, hein, des Ligures, des Celtes, des Gaulois. On vient de là, quoi, quand même. Hein.
Oui, toi, tu te rattaches plus aux Gaulois qu'aux Romains ou aux Grecs.
En tant qu'origine indépendante de ma volonté, c'est pas un choix.
Oui, hein. J'entends bien.
Pas un choix.
Mais au niveau du caractère, c'est plus près des Gaulois.
Que... Ah, oh, je sais pas, parce que j'ai une énorme admiration pour les cultures grecques et latines, d'autant que notre culture à nous, la culture des troubadours, donc, a commencé de la même façon, hein, en versifiant, en chantant. Toutes les cultures ont eu le même départ, quoi. Donc la prose est arrivée beaucoup plus tard. Et la culture des troubadours fait pas exception à la règle. Donc on a quand même des racines communes. Et puis, bon, Mistral réclame son affiliation au troubadour et donc à l'Antiquité aussi.
Oui.
Alors bon, on peut pas échapper à ça. C'est très difficile.
Ouais, Mistral est quand même le maître de la
le maître à penser,
c'est
oui.
Le maître à penser
tout
de
à
la
fait.
Provence.
Oui,
hein.
Oui, oui,
autant
oui.
Le marquis de Baroncelli, Folco de Baroncelli, a créé la Camargue, parce qu'on peut le dire.
On dit qu'il a inventé, bon, c'est possible.
Je l'ai travaillé.
Oui, oui.
Il a inventé la Camargue qu'on connaît.
Hein, oui.
La Camargue qu'on connaît. Il n'a pas inventé la Camargue, mais la Camargue qu'on connaît, par exemple les bottes camarguaises, c'est purement une invention postérieure. Hein, 1940, 1950, les premières bottes avant, on montait à cheval en sabot. Donc, il a quand même créé la tradition, en fait, parce que Mistral ne voulait pas trop aller en Camargue, parce qu'il y a les moustiques toujours, hein, donc il lui a dit « ça serait bien que tu t'occupes
».
Hein.
Oui.
Mais la structuration, de si vous me permettez le terme qui est vraiment très mauvais, de l'idéologie provençale, c'est quand même Mistral. C'est Mistral qui a repris la langue, qui en a fait une langue académique, qui en a fait une littérature spécifique, c'est vraiment le maître à penser.
Mais si on regarde la chronologie du temps, bien sûr, les Grecs sont arrivés en moins 900, Marseille a été créée en moins 600.
Et oui.
Donc, qui y avait-il dans la belle capitale de Lutèce en moins 600 Pas grand-chose.
C'était pas pareil. Tout le sud de la France était...
Oui. Romanisé avant le nord.
Oui, déjà. Parce que c'est un problème de circulation maritime, c'est-à-dire que l'Italie, c'était particulier parce qu'il y avait les Étrusques qui ont énormément influencé les Romains, et puis le sud de la France, c'était les Grecs, c'était le comptoir grec, comme le nord de l'Afrique, c'était les Phéniciens qui ont créé la culture punique.
Oui.
Hein, tout le monde connaît les guerres puniques, mais personne ne connaît la culture punique, qui est un mélange entre les Phéniciens et ce qu'on appelait les Berbères de l'époque. Et donc, c'est une culture très spécifique qui était l'équivalent de Rome, quoi, hein, qui a combattu Rome.
Mais d'ailleurs, l'histoire dont s'est forgé l'Empire romain est une histoire vraiment à part entière. C'est assez admirable, cette province-là qui était un peu isolée, qui est devenu, ce village qui est devenu...
C'est ça.
Oui, qui est devenu carrément l'Empire, quoi.
Ben oui, mais c'est intéressant parce qu'ils acceptaient les cultures étrangères. Ils ont été extrêmement influencés par les Étrusques, qui est une culture très poussée, qui n'était pas une culture romaine, qui avait des dieux comparables aux Grecs, donc c'est quand même important. Alors, on arrive de l'Antiquité vers les Romains, et les Romains, quand même, la Romainité provençale, qu'ont fait les Romains en Provence? Ils ont fait beaucoup, quand même.
Énormément. Alors d'abord, quand ils se sont installés, on parlait de langue tout à l'heure, bon, ils ont permis à des locuteurs de venir pour avoir une langue commune, mais ils ont créé une économie, bon, ils ont créé ce qu'on a connu, la paix romaine, et ils ont créé une grosse économie, et puis une sécurité, parce que les Marseillais sont allés les appeler, les Romains, quand ils ont été assiégés, etc. Donc, les Romains étaient des alliés, à un moment donné. Et ils ont ciselé nos paysages, avec de superbes monuments.
Oui.
Ils ont quand même installé une culture complète.
Et puis ils ont fait des voies, quand même, avec la voie domitienne.
Oui, c'est ça.
Voilà,
donc, des voies de circulation, etc. Oui, ils ont amené une civilisation complète, quoi.
Ouais, c'était des bâtisseurs, ils faisaient des choses que les Grecs ne faisaient pas.
Oui.
Autant les Grecs ont bâti dans le beau et dans l'harmonie, hein, le Parthénon, la sculpture, tout ça vient de la Grèce. Autant l'urbanisme, les routes et les monuments importants, c'est quand même les Romains.
Ah oui, routes, grandes villes, aqueducs, etc. Enfin, ils ont osé beaucoup de choses et... Effectivement, quand on voit le Glanum de Saint-Rémy de Provence, il y a de quoi être émerveillé de l'organisation de ce site, quoi.
Et puis surtout, ils ont apporté la paix, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était que des escarmouches et des choses comme ça, et en fait, il y a à peine. Bon, on est à Nîmes, mais les remparts nîmois qu'Auguste a donné à la ville, c'était un petit appareil, c'est-à-dire quand la tour était visible au niveau des arènes, et il y a d'autres parties de sur la route d'Alès, il y a une partie du rempart qu'on peut voir, c'est un petit appareil bien taillé, c'est pas un rempart défensif, c'est un rempart d'apparat, parce que la ville devait être entourée d'une enceinte sacrée et qui était matérialisée par un rempart qui avait plus un but de religieux et de prestance que défensif. Et on peut le comparer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le petit appareil de l'enceinte de Nîmes, Nemosus, hein, et d'aller voir sous le palais de justice, il y a des fouilles qu'on conserve avec un morceau du rempart post-romain, qui est un rempart défensif, fait en gros appareil avec des blocs récupérés sur les monuments romains pour faire un rempart contre les invasions, qui est bien comme un ultérieur rempart d'agrément, quoi, si vous me permettez.
Et puis la culture de l'eau.
Voilà, et puis il y a une statue un peu particulière à côté du palais de justice que tous les Nîmois communs connaissent, qui est fait de trois blocs, qui est en fait qui est des morceaux de rempart, quoi. Hein. Mais bon, les Nîmois en font une sculpture, mais c'est un morceau de rempart de gros appareil. Donc les Romains ont fait beaucoup, ils ont amené leur religion, ils ont amené... Mais ce qui est intéressant chez les Romains, c'est qu'ils acceptaient les religions des peuples avec qui ils s'alliaient ou qui ont conquis, puisque la source Nemosus, Nemosa, est restée divine pour les Romains. Donc l'Augusteum, qu'on appelle le temple de Diane, eh ben, c'était à côté d'un sanctuaire celte, quoi, hein. Donc il n'y avait pas de... C'était pas péjoratif, et donc il y avait une symbiose religieuse qui se faisait.
D'ailleurs, la survivance de la romanité à Nîmes est encore actuelle aujourd'hui, elle est d'actualité, et elle s'explique à travers
l'histoire. Même Arles, en fait, je veux dire, Arles est une grande ville romaine, une ville impériale, alors que Nîmes n'en est pas. Arles est une ville impériale et une ville religieuse très très importante, alors que Nîmes, au début, n'était pas moins importante qu'Arles, hein, quoi. Mais vous écoutez bien l'émission, je l'espère, et si l'on parlait de la Provence, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM, et en DAB+, avec Philippe Reig, doctoresse littérature en provençal, majoral des Félibrés. Je vous propose une trêve musicale avec Amor de Long, Jacques Milana, la forme occitane de son prénom Jacqueline, une chanteuse occitane. Elle est une des représentantes du mouvement de la Nova Canzone, nouvelle chanson, en occitan.
Num plas plus là.
Vous écoutez ici on parlait de la Provence avec Philippe Reig, une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Alors, après les Romains, que se passe-t-il au Moyen-Âge en Provence ?
Alors, au Moyen-Âge, c'est une région qui est déjà vaste avec Narbonne, Montpellier, Saint-Gilles, Béziers, Avignon, Valence et Lyon même. Et Lyon.
De remonter la Provence jusqu'à Lyon.
Oui, en fait, cette expansion s'est faite au Moyen-Âge jusqu'à Lyon, tout à fait. Puis bon, bien sûr, il y avait la Terre d'Argence.
C'est quoi la Terre d'Argence ?
Alors, c'est la région beaucairoise-bellegardoise, la région de Beaucaire. Ah. Et Fourques, Beaucaire-Fourques.
Parle-nous un peu.
Alors, comme les territoires étaient divisés en petites régions.
Oui.
Donc avec
des spécificités. La Provence était divisée en en sous-Provence.
Et donc la Terre d'Argence en faisait partie, était l'un de ces endroits. Effectivement, qui est gardé d'ailleurs, on parle toujours de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence.
C'est quoi la Terre d'Argence ?
Oh ben, c'est un nom.
Un nom comme ça ?
Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc c'est aussi les terres de. C'est aussi le moment où on déteint quand même les premières croisades au Moyen Âge en Provence, puisque des seigneurs étaient appelés pour prendre l'ost et partir en croisade pour le roi.
Prendre l'ost, c'est rentrer dans l'armée du roi.
L'armée du roi, c'était une. Enfin, les seigneurs devaient 28 jours de guerre par an au roi. 28 jours qui débordaient souvent.
Oui, qui débordaient. Parce que quand on était parti sur un bateau, c'était plus que 28 jours.
Rien que pour y aller.
Donc là, on est dans un monde de féodal, de vassalité.
Alors, nous, en Provence, non. La féodalité s'était installée en Languedoc. Ah, bien sûr, il y a eu des répercussions, puisque les seigneurs aragonais, etc., ont pris des épouses en Provence, puisque le comte de Provence avait beaucoup de filles. Donc, il s'est fait beaucoup de. Par mariage interposé, on protégeait un petit peu son territoire. Son parage, son aura, sa réputation, sa renommée, donc à travers les mariages. Et la Provence a connu ça, quoi. Il y avait aussi tous les vicomtes, qui sont auto-baptisés vicomtes d'ailleurs, à Nîmes, à Béziers, etc. Oui, parce qu'ils étaient. Le Seigneur leur avait confié des terres et finalement ils ont fait un peu leur, certaines fois.
Oui.
Donc voilà, les vicomtés de Béziers, Narbonne, Nîmes, etc. Le Rhône n'était pas une frontière à l'époque. Hein. On traversait le Rhône quand même assez facilement. Donc du coup, la Provence a été.
Et comment traversait le Rhône ?
Oh bah alors là.
En bateau, en barque.
Il n'y avait
pas de pont. Hein. Le pont romain n'existait plus. Les ponts romains n'existaient
plus. Non, d'ailleurs, les premiers ponts étaient des ponts de barque, des ponts de bateau.
Ouais. On
mettait des barques, comme le pont de Trinquetaille a été comme ça à Arles. Donc c'était des ponts de barque. Voilà. Alors effectivement, au Moyen-Âge, ma foi. La langue s'est développée, la culture troubadouresque aussi. On est tombé
On veut parler des troubadours en Provence.
Oui, bien sûr, de la même façon que ils sont partis de. Les premiers troubadours étaient à Limousin. Hein.
Oui, parce qu'on parle surtout des troubadours dans le côté ouest,
côté
Albi,
Languedoc,
tout ça, puis Languedoc. Mais...
Non, il y avait effectivement des troubadours en Provence. Hein.
Des poètes et des chanteurs qui allaient de ville en ville.
Voilà,
et qui...
Ne serait-ce que Rimbaud d'Orange. Alors souvent c'était des nobles quand même. Il y a eu des dames.
Ouais.
Et des dames, hein, puisque.
Oui, mais la place de la femme au Moyen-Âge n'est pas du tout ce qu'on croit.
Non,
quoi.
Comme le disait, je ne sais plus quel auteur, là, qui parlait des femmes du Moyen-Âge, les femmes des cathédrales avaient droit à la parole. Quand
oui,
même.
Oui, oui.
C'était
oui,
pas,
oui, elles étaient ouvertes à la culture.
Elles étaient partie prenante dans les confréries, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, alors donc, il y a des trafics commerciaux qui se sont bien développés, d'ailleurs. Beaucoup de corps de métier qui se regroupaient, d'ailleurs, pour mutualiser un peu leurs besoins. Je pense que la France d'aujourd'hui, quand même, elle n'est pas loin de celle du Moyen-Âge, avec l'artisanat, etc. Il y a une subsistance qui est nette de ce point de vue-là. Après, bon, tout dépend effectivement de l'approche qu'on peut nourrir. Et puis les villes de Vauvert, Les Juifs qui ont suivi les Romains se sont installés d'ailleurs à Avignon aussi. Et ils faisaient du commerce de chevaux avec les Romains. Et quand les Romains sont venus ont créé la Narbonnaise, ils ont créé des communautés. Alors bien sûr, il y a aussi, on retrouve dans les noms de famille aussi des références gauloises même. Dans les noms.
Et puis il y avait de grandes foires comme à Beaucaire,
Madeleine. Alors la foire de la fête de la Madeleine à Beaucaire.
C'est très important. Alors pourquoi la foire à Madeleine ? Parce que c'est le 20, c'est en juillet, le 21.
C'est le 21 juillet, oui.
C'est la Saint-Madeleine, c'est pour ça d'avoir la Madeleine. Hein.
Tout à fait.
Donc il y avait une confrérie au Moyen-Âge de Saint-Madeleine qui existe encore. Donc je connais beaucoup de monde. Et alors, la foire de Beaucaire, c'est important. Pourquoi ? Alors, Beaucaire est devenu célèbre pour ses pierres, hein, parce qu'il y avait la pierre de Beaucaire. Et donc, je vous signale qu'il faut aller à Beaucaire pour voir la frise romane de Notre-Dame des Pommiers. Alors, j'en profite, est-ce que tu sais pourquoi on appelle Notre-Dame des Pommiers ?
Non, je ne me suis pas...
Parce que personne ne sait, quoi.
J'ai mon cours de Provençal juste en face de Notre-Dame des Pommiers.
Bon, mais c'est très bien.
À côté de la maison de Louis Romieux, que je peux mieux expliquer. Que...
Voilà. Alors là, il y a une frise Provençal qui est admirable, qui est comparable à la façade de Saint-Gilles, hein, que personne ne peut... Enfin, que très peu de gens connaissent. Et qui est en rapport avec Modène, la cathédrale de Modène, où sur le jubé, il y a à peu près les mêmes représentations de la Passion du Christ. Donc, c'est du roman provençal, sculpture provençale. Donc, là, c'est en juillet. Pourquoi ? Parce que d'abord, il fait beau, donc on peut faire... je pense qu'il y avait des vergers, c'est pour ça qu'on parle de pommiers, mais en fait, ça fait un peu trop facile. Et donc, les gens venaient par le Rhône.
Oui.
Par le Rhône, et donc les gens venaient d'Italie, venaient du Nord, et donc à Beaucaire, c'est une ville très importante, et on le voit, il suffit de se promener dans le vieux Beaucaire pour voir comment, bon, on n'est pas au Moyen-Âge dans les constructions, hein, c'est le baroque, etc., et puis avec le chemin de fer à Nîmes, cette foire et Beaucaire complètement chuté, et oui. On ne passait plus par le Rhône.
Oui, le chemin de fer a été tardif, mais effectivement, bon, il y a eu la marine de halage, il y a eu la marine à vapeur.
Voilà, hein.
Tout ça est bien raconté par Mistral, d'ailleurs, dans le poème du Rhône.
Mais en fait, quand même, avec le train, Beaucaire est vraiment...
Ah, le train, ben le train, toutes les foires du Sud, puisqu'à un moment donné, avec le train, même les choses se sont un peu déportées à Saint-Gilles,
oui.
À Aigues-Mortes. Il y a eu des petits déports de... La foire de Beaucaire était... Bon, c'est sûr que voyager par mer, c'était le plus sûr.
Voilà, et alors, Saint-Gilles, quand même, qui est dans Camargue, qui est à Porte de la Camargue, comme je le dis, c'est le cinquième lieu de la chrétienté, parce que vous aviez Jérusalem, Rome, Rocamadour, Saint-Jacques de Compostelle, et au milieu, Saint-Gilles. Et Saint-Gilles, de Saint-Gilles, on pouvait partir partout. Ou si on allait d'un point à l'autre, on passait par Saint-Gilles. Donc c'est, à mon sens, c'est moi qui l'ai défini un peu, mais j'aime bien ma définition et ma découverte, c'est le cinquième lieu de pèlerinage important de la chrétienté du Moyen-Âge. Et Saint-Gilles, avec son abbatiale que tout le monde connaît en Provence, eh bien c'était l'endroit où il y avait le plus de changeurs. Donc ça montre que c'est une ville très importante. C'était le port pour partir à Jérusalem à l'époque et en croisade. Hein. Après, c'est devenu Aigues-Mortes. Mais d'abord, Saint-Gilles. Donc Saint-Gilles est une ville très importante. Et Beaucaire est juste à côté de Saint-Gilles. Donc c'est la foire de Beaucaire est une foire très, très, très importante.
Oui, oui. Et n'oublions pas l'aristocratie provençale qui s'est créée au XIe siècle. Au XIIIe, on en parle encore. Cette aristocratie qui est née à cette époque-là. Donc au Moyen-Âge, un plaigneur du Moyen-Âge, c'est quelque chose d'assez remarquable.
Alors nous avons déjà vu dans une présente émission qu'en 1400, alors moi j'ai la date de 81, mais toi tu parles de 82, puis après de 86, ça me fait
oui,
autour
parce
des...
Que, oui, parce oui, que mais les traités
voilà, hein, bon, on n'est pas une question de date. Là, pour on rejoint la couronne française, peux-tu nous en dire plus ?
Alors ça s'est fait... Alors, à Languedoc, on a connu le rattachement du comté de Provence à la couronne de France, avec... je dirais les manigances de Saint-Louis par rapport à Raymond VII, qui, dans le traité de Mauparis, Raymond VII devait avoir un héritier mâle pour annuler les phrases du traité de Mauparis.
Oui.
Bon, finalement, il avait trouvé une femme, Sancy de Provence, pour faire un enfant, puisqu'il avait répudié sa première épouse, qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Et Sancy de Provence, ben, on y a trouvé des liens de consanguinité à un niveau interdit. Alors l'Église, quand ça l'arrangeait, elle disait il y a un lien au niveau 3, même si ce n'était pas vrai. On est autorisé jusqu'au niveau 5, mais ben, il y avait un lien au niveau 4. Enfin bref. Et donc, du coup, il n'a pas pu se remarier, ce brave Raymond VII, puis il est mort assez vite. Et c'est donc sa fille qui a été héritière, qui a hérité. Et habilement, on a marié, enfin, à l'âge de 9 ans,
oui.
Sa fille était déjà promise en mariage à Philippe de France, qui était le frère de Saint-Louis, déjà. Donc déjà, il y a eu des manigances pour justement délester Raymond VII de son héritage pour faire en sorte qu'un jour s'arrive à la couronne de France. Mais la grande manigance est venue de Louis XI par rapport à René d'Anjou. Il était son neveu, Louis XI, de René d'Anjou.
L'histoire de famille.
Hein. Il a fait des pressions sur René d'Anjou qui commençait à rentrer dans l'âge aussi à un moment donné, à 65 ans. Il ne voulait plus être inquiété par les problèmes de guerre, etc. Donc il a abandonné l'Anjou à Louis XI, et puis il s'est retiré en Provence, et Louis XI lui a promis 10 000 livres de rente par an, donc voilà.
Et puis, la Provence est devenue française.
Et puis, il a eu la libération de sa fille, puisqu'elle était retenue en Angleterre. 50 000 livres d'or qui ont été payés par Louis XI pour payer la rançon de sa fille.
Oui, donc,
sa fille a renoncé, pour peu qu'elle renonce à son héritage, ce qu'elle a fait.
Oui.
Elle est retournée en Provence. Louis XI, le roi René s'était remarié entre-temps. Et donc, il est parti en Provence se retirer. Bon, là, il s'est intéressé aux arts
et tout. Et quand on arrive à la Renaissance au XVIIIe siècle, comment est la Provence ?
Alors, la Provence, elle suit un petit peu les courants nationaux. Il faut dire que, déjà, on part de l'Ancien Régime avec les baroques. À la mort du dernier baroque, en 1649, c'est Pierre Goudouli de Toulouse, puisqu'il y a eu à l'Ancien Régime, des gens se sont remis à écrire spontanément dans leur langue. Il y avait en Provence Bézot de la Bélaudière, il y avait Isaac Despuech à Montpellier, il y avait Pé de Garros et Bertrand Larade en Gascogne, et il y avait Pierre Goudouli à Toulouse. Mmh. Ces gens-là se sont remis à écrire spontanément dans leur langue, et effectivement, il y a eu un mouvement. Et le mouvement, au moment des réformes protestantes et catholiques, il faut dire qu'en 1550, après 1550 jusqu'en 1598, il y a eu 8 guerres de religion importantes, auxquelles Henri IV a mis fin par l'édit de Nantes. Et donc, ces guerres de religion se sont senties partout.
Et bien sûr.
Il n'y a pas eu de... Et ce protestantisme qui est né, on va dire, vers Lyon, on va dire. Il y a un croissant qui part de Lyon, qui descend vers la Provence en s'élargissant, et qui passe par le sud et qui remonte vers le Limousin, enfin par là, quoi. Donc ce croissant protestant a joué énormément dans la pensée des auteurs et tout. L'histoire a impacté l'œuvre des auteurs.
Oui, bien sûr, les auteurs...
Obligatoirement. Donc, ce croissant protestant, là, s'est installé, et la Provence a été soumise à tous ces effets, malgré elle, quoi. Mais le siècle des Lumières, c'est bien le XVIIIe siècle, et c'est un petit peu... Alors, c'est Louis XIV qui avait installé le mouvement classique, avec l'homme au milieu de la famille, la religion, etc. Parce qu'il faut dire que les baroques sautaient un peu du coq à l'âne, c'est ce qu'on dit de la cabre au Perrier en provençal. ils avaient laissé quand même une surcharge dans les arts, même dans la musique un peu plus tard, etc. Et ça, il a fallu revenir au calme, d'autant que la religion catholique n'était pas très blanche, parce qu'avec le nicolaïsme, la simonie, ils vendaient un peu le pardon.
Oui.
Donc il y avait de l'ordre à mettre dans la boutique. Oui. Et effectivement, en même temps, c'est créé la religion protestante sur la même mécanique que s'est créé d'ailleurs les Vaudois.
Oui.
Avant, très, très avant. Donc voilà, et la Provence a subi cette montée. Mais Louis XIV, quand même, a créé ce mouvement classique. Bon, il a régné 72 ans, quand même. Il a eu le temps d'installer
de faire des choses.
Oui. Voilà, exactement. Alors donc, la Provence a été impactée par toute cette histoire, par l'histoire du pays, quoi.
Très bien, alors pour le 19e siècle, qui va être une période riche pour la Provence et les Provençaux, j'ai prévu de faire d'autres émissions, une autre émission. Nous en reparlerons. Eh bien, très cher Philippe, cher maître, merci infiniment pour notre rencontre qui nous a tant apporté et qui a certainement donné envie aux auditeurs de vouloir réécouter nos émissions sur la régionalisation et qui évoque notre si belle Provence lors de l'émission « Et si on parlait de la Provence ?». Je rappelle aussi notre émission « Et si on parlait de la Camargue » et aussi « Et si on parlait des Cathares ». Je remercie bien évidemment Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous rappelle que vous pouvez adhérer à notre radio en versant une cotisation pour que l'on puisse continuer à émettre et à vivre et à vous informer et vous distraire. Merci encore infiniment à toi Philippe et à très vite pour une nouvelle émission « Et si on parlait de la Provence ».
À très bientôt.
Et comme on le dit en provençal, vous êtes à Dieu, à Désias.
À Désias.